Philosophie éthique, Père Philippe, 26 octobre 1983.
Nous verrons, en voyant le point de en voyant la philosophie première, le point de départ de toute philosophie, nous verrons comment l'éthique, la philosophie morale, part de l'expérience de l'amour d'amitié. Je ne vais pas le montrer maintenant, je crois qu'il vaut mieux réserver cette recherche des points de départ de la philosophie à ce que nous voyons dans le cours de philosophie première. Ce n'est pas l'expérience religieuse qui est le point de départ de l'éthique. Ce n'est pas l'impératif catégorique de Kant. Ce n'est pas l'inspiration, mais c'est l'expérience que nous avons de notre responsabilité. Je crois que le problème moral se noue toujours autour de notre responsabilité. Or, c'est à l'égard de l'amour d'amitié que nous avons le sens de la responsabilité à l'égard d'un autre. On pourrait dire, voyez, et je crois qu'il faut toujours voir le parallélisme, parce que il ne faut pas prendre ces points de départ d'une manière trop rigoureuse, comme si ça excluait le reste. De fait, nous avons commencé à comprendre un tout petit peu ce que c'était que la morale. À quel moment l'âge de raison, quand on parle de l'âge de raison dans un foyer chrétien, dans un milieu chrétien, on parle de l'âge de raison. Évidemment, d'autres disent qu'il n'y a pas, c'est beaucoup trop tôt, 7 ans. Et des mères de famille savent très bien qu'on est responsable de ce qu'on fait bien avant 7 ans. Dès que l'enfant commence à dire non, quand sa mère lui dit de faire telle ou telle chose, je crois qu'il commence à prendre un peu conscience de ce que c'est que l'acte moral. La preuve, c'est qu'il n'est pas très heureux après avoir dit non. Il n'ose plus trop regarder sa mère en face. Il regarde par terre plutôt. Il est plutôt dans une attitude de celui qui boude. Un enfant qui dit non, ordinairement, le non ne naît pas du tout dans la joie. Ça naît plutôt dans une attitude de repliement sur soi et on boude. On n'ose plus regarder en face. Dans une famille chrétienne, dans une famille humaine tout court, à quel moment commence l'éveil de la morale? C'est une question qu'on doit se poser, puisque nous essayons de comprendre le point de départ de l'éthique. Je crois que là, on peut dire que la morale va naître à partir du problème de l'obéissance. Oui. Je note les points de départ. C'est intéressant à noter, en voyant que c'est l'expérience. Alors, première expérience, c'est tout ce que nous cherchons dessus. Parce que nous devons réfléchir sur la pastorale familiale. Ça fait partie de la grâce particulière de la communauté Saint-Jean. Il faut donc réfléchir sur la pastorale familiale. Et je crois qu'on peut dire que la première expérience qui donne le sens de la vie morale, de la responsabilité, c'est l'obéissance. La première fois où on dit non par rapport à un acte d'obéissance. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait l'impératif catégorique de Kant, mais c'est assez proche. C'est quelqu'un qui vous a donné un précepte. C'est votre mère. Quand on a oublié la mère, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je crois qu'il y a quelque chose de vrai, c'est que c'est, on a eu besoin d'un tuteur. Une petite plante a besoin d'un tuteur. Et le premier réveil en nous de ce que représente ce que nous devons faire, la responsabilité que nous devons avoir, c'est bien l'obéissance, le précepte de la mère. Je mets plutôt la mère plutôt que le père, parce que c'est plus vite, c'est la mère et plus immédiatement. Mais le précepte de la mère qui dit ça. Et je crois qu'il y a eu là l'éveil de quelque chose de moral. Mais vous voyez, c'est lointain. Je n'en ai pas l'expérience actuelle. Et au fond, ni le gosse, ni la mère n'ont la préoccupation philosophique de faire une éthique. C'est bien évident. Vous n'avez pas eu une préoccupation de faire une éthique quand vous aviez 4 ans et la première fois vous avez dit non. Vous avez boudé tout le reste de la journée. Et puis le soir, quand la mère est venue pour vous embrasser, et vous avez dit, vous avez compris que c'était pardonné. Alors là, vous avez compris qu'il ne fallait pas recommencer, il l'a dit. Il ne faut pas recommencer. Mais une autre fois, tu obéiras. Parce qu'on était privé de dessert. Il y a eu un petit châtiment qui a permis de comprendre. Alors, ça s'est enraciné dans le point de vue sensible. Je crois que c'est là. On pourrait dire ça génétiquement. Hein. Mais vous voyez, je ne peux pas commencer par ça. Parce que c'est une expérience qui est lointaine. Rappelez-vous, première fois, vous avez dit non. Vous êtes très inscrit. Mais je ne peux pas commencer la philosophie par un souvenir. Ce serait la réminiscence. Je ne peux pas commencer. Deuxièmement, deuxième expérience que je peux avoir, c'est Piaget qui dit ça. Piaget dit que c'est, non pas du tout l'obéissance qui fait l'éveil du point de vue moral, non. Non, c'est l'attitude de la communauté au niveau du jeu, dans le jeu. C'est à ce moment-là qu'il y a des mêmes morales. Pour Piaget, je donne mes sources, à 14 ans, parce qu'il fait cette expérience vis-à-vis de petits garçons qui ne sont pas à Paris. Alors, à 14 ans, tandis que 6, à Paris, c'est 4 ans. Tandis que là, c'est 14 ans. Alors, 14 ans. Alors, l'éveil qui se fait à 14 ans, quand on joue en communauté, dans une petite communauté, pour lui, c'est à ce moment-là. Donc, il y a une compétition, petite compétition, qui va faire naître le sens moral. Je ne peux pas commencer, même si c'est vrai, je ne crois pas que c'est vrai, ça ne veut rien. Je le cite parce que c'est un psychologue qui dit ça gravement. Alors, il faut quand même respecter. Alors, je ne crois pas que c'est vrai. C'est deux hypothèses qui sont très intéressantes. Parce que ici, vous êtes en face du fat chéré. Le jeu, c'est du fat chéré. Mais comme c'est du jeu dans la communauté, c'est pas à partir du jeu lié à la communauté. Toute communauté implique de l'agir. Et donc, il peut y avoir, en effet, à ce moment-là, un sens d'une responsabilité. Je suis responsable de ceux avec qui je joue. Et pour lui, c'est ce sens de cette responsabilité qui fait connaître le point de départ de l'expérience de morale. Tout ça, c'est lointain. Donc, je ne peux pas m'arrêter à ça. Je dois regarder maintenant. Dans ma vie actuelle, puisque je fais de la philosophie maintenant. Et vous aussi, vous faites de la philosophie maintenant. Quelle est l'expérience pour vous où vous avez le plus grand sens de votre responsabilité. Faisons attention, hein, ne faisons pas ici appel à notre vie chrétienne. Je peux distinguer en moi ma responsabilité en tant que chrétien, ma responsabilité en tant qu'homme religieux, ma responsabilité en tant qu'homme. Je peux faire la distinction. Si vous réfléchissez quelques minutes. Hein.
Oh, il s'agit de réfléchir, parce qu'on fait de la philosophie.
On réfléchit. Ma responsabilité en tant que chrétien, c'est mon lien avec le Christ. Donc, on peut dire que c'est dans la foi. C'est dans la foi au Christ qui quête. Et c'est à partir de ma foi dans le Christ que je vais comprendre ma responsabilité à l'égard de mes frères, dans la charité fraternelle. Je crois que c'est bien cette charité fraternelle que j'ai le sens le plus aigu de ma responsabilité. Vous voyez, dans mon amour à l'égard de Dieu, c'est beaucoup plus caché, et je n'ai pas le sens de ma responsabilité, j'ai plutôt le sens de ma dépendance, de l'attitude de réceptivité. Tandis qu'au contraire, dans la charité fraternelle, je dois tout de suite agir. Je suis responsable de mes frères. Vous voyez, la première chose qu'on voit, qu'as-tu fait de ton frère, hein? Le premier reproche que Dieu fait à l'homme, après la faute chassée du paradis terrestre, qu'as-tu fait de ton frère? C'est vrai que la première responsabilité qu'on a, le premier sens de notre responsabilité la plus aiguë, c'est dans la charité fraternelle, actuellement. Quelle est pour vous, posez-vous la question, quelle est pour vous la responsabilité la plus grande en tant que chrétien? C'est la charité à l'égard du prochain. Le prochain, c'est celui que Dieu a mis sur ma route. C'est pas celui que j'ai choisi. Et je suis responsable de lui. Qu'as-tu fait de ton frère? Ça au niveau chrétien. Au niveau religieux. Au niveau religieux. Quelle est ma responsabilité au niveau religieux? En tant qu'homme religieux, vous voyez, c'est les trois niveaux de ma responsabilité. Je ne les justifie pas. Maintenant, mais nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons, parce que c'est très très important ça, l'analyse des trois niveaux de responsabilité. Il n'y a pas qu'un seul niveau de responsabilité. Nous vivons en tant que chrétiens, si nous sommes chrétiens. Il y a une responsabilité comme chrétiens. Nous vivons en tant qu'hommes religieux. En tant qu'homme religieux, il y a un niveau de responsabilité différent. La preuve, c'est qu'on s'y en était avec d'autres qui n'étaient pas chrétiens et qui étaient uniquement des hommes religieux, on comprendrait très bien qu'on peut parler de ce langage religieux. Et on le fait automatiquement dès qu'on se trouve en face de gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont religieux. Il y a une responsabilité en tant qu'homme religieux. Alors la responsabilité en tant qu'homme religieux, je crois que c'est l'adoration. Adoration, parce qu'il y a un dû. Un dû à l'égard de Dieu. Donc, il y a une espèce de justice. Charité, justice. Alors, en tant qu'homme, troisième niveau de ma responsabilité, en tant qu'homme religieux, homme chrétien, et puis homme tout court. Ma responsabilité en tant qu'homme. Alors, je crois qu'elle est double, vous voyez. Il y a une responsabilité au niveau justice. Dans la vie commune. Je suis responsable du bien commun. Vous sentez que c'est immédiat. Ça. Je suis responsable du seul. Je suis responsable de la fonction qu'on m'a demandée. Donc il y a un sens de responsabilité au niveau de la justice. Et puis un sens encore beaucoup plus profond de la responsabilité qui est au niveau de la humanité. Donc vous avez trois niveaux de responsabilité en vous. Vous sentez en vous, je crois, conscience, vous faites un petit examen de conscience, philosophique, et vous découvrez à ce moment-là ces trois niveaux de responsabilité. C'est important de les distinguer, c'est très important au plan philosophique. Dans la vie, c'est évident que c'est la responsabilité chrétienne qui est première. Mais voyez, quelquefois, on ne regarde que celle-là, alors on télescope les autres. Il n'y en a pas le droit. Parce que la foi, la grâce, ne détruit pas la nature. Et donc les autres responsabilités demeurent. Ça, c'est sûr. On a une responsabilité au niveau de justice, on a une responsabilité au niveau d'amour, d'amitié. Parce qu'au niveau de la justice, il y a un dû, au niveau de l'amour, d'amitié, il y a un autre dû. Il y a le jus amicitiae, le dû de l'ami. Dès qu'on est en relation amicale avec quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Il y a donc une responsabilité nouvelle, il y a un nouveau dû. Parce que l'ami a des droits sur l'ami. Alors il y a ce dû qui est propre à l'ami. Je crois que ça, nous pouvons facilement le comprendre. Poussons un tout petit peu plus loin. Pouvons-nous trouver une responsabilité au niveau de l'homo fader, au niveau du fatuel? Oui, c'est pour à propos du jeu. Bien, ma responsabilité dans l'ordre du facere dépend de la justice ou de l'amitié. Elle n'est pas directe. Donc, il n'y a pas de responsabilité qui naît à partir du facere. Vous allez comprendre. Dans l'ordre du facere, êtes-vous responsable de l'outil dont vous servez? Vous vous servez d'un outil. Prenez des notes. Le bip craque. Est-ce que vous êtes responsable de l'instrument? Est-ce qu'il y a un débitum à l'égard de l'instrument? Ce débitum à l'égard de l'instrument revient tout simplement si cet instrument ne vous appartient pas. C'est bien commun. Alors, je suis désolé, il a craqué. C'est mon bien commun, le bien commun. Il entend. C'est à un ami. Vous référez donc à ces deux débitum. Le débitum de la justice, le bien commun, le débitum de l'amitié. Je crois, réfléchissez bien, je crois qu'il n'y a pas de responsabilité propre au facturé. Ce qui est très très intéressant à bien préciser. Là, ça fait partie de... Ces questions, je ne les traite pas toutes, on ne peut pas tout traiter. De temps en temps, je vous dis qu'il y a des questions importantes. Alors, si vous ouvrez un chantier naval, vous ouvrez un chantier, et alors vous mettez là des réflexions. Posez-vous la question, il faut se poser la question, y a-t-il une responsabilité qui naît au niveau du facere? Je dis que la responsabilité au niveau du facere provient de mon engagement communautaire, alors que je retrouve la justice, ou de mon engagement amical. Quand vous faites la cuisine, est-ce que vous êtes responsable? Vous êtes responsable que la cuisine se fasse bien à l'heure si on vous le demande, et c'est parce qu'on vous l'a demandé. Vous n'avez pas de responsabilité vis-à-vis des instruments, sauf en raison du bien commun, pas directement l'instrument. Ou parce que vous avez demandé à quelqu'un que vous aimez bien, prêtez-moi ça, j'en ai besoin. Ça ne fait pas partie du bien commun, mais ça fait partie d'un bien amical. Votre mère voit que vous aviez une vieille casserole, elle vous dit, tiens, je vais apporter la mienne. Alors ça ne fait pas partie du bien commun, c'est sûr. Mais il y a un lien d'amitié. Et vous êtes responsable en fonction du lien d'amitié. Je crois qu'il n'y a pas, ça c'est... à réfléchir, je crois qu'il n'y a pas de responsabilité propre au niveau du facere. Le facere n'est pas ce qui... Le facere, comprenez bien, hein, l'activité artistique, l'activité de réalisation artistique. Je crois que l'activité de réalisation artistique ne va pas faire naître en moi une responsabilité. Si elle fait naître en moi une responsabilité, ceci dépend de mon lien avec le bien commun, ou de l'amitié. Je règle ceci comme cela, tout simplement. Et je vous demande d'y réfléchir. Si vous avez dans vos réflexions quelque chose là-dessus, ce sera intéressant. Je reviens donc à cette expérience qu'au fond, il y a deux lieux, il y en a trois. troisième, si vous voulez, comme avant lui, le point de vue humain. Il y a deux lieux où il y a responsabilité qui met. La justice et l'amour d'amitié. Alors pourquoi je dis, je prends comme expérience l'amour d'amitié et non pas la justice? Intéressant. Je n'ai pas dit jusque maintenant, mais je pourrais peut-être me corriger, n'est-ce pas? Vous savez, Saint-Augustin s'est corrigé à un moment donné dans sa vie, donc on pourrait se corriger, dire, jusque maintenant, je vous disais que le traité de l'éthique reposait sur l'expérience de l'amour d'amitié, maintenant je vous dis, non, ce n'est pas l'amour d'amitié, c'est l'expérience de la justice. Eh bien, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a un problème qui se pose. Et je le soulève avec vous. On ne l'a pas soulevé l'année dernière, si vous vous souvenez. On ne l'a pas soulevé, je le soulève avec vous. Parce que c'est intéressant d'y réfléchir. Est-ce que l'expérience de la justice, elle est constante, hein? Vous allez acheter des cigarettes, pas vous, vous allez acheter des cigarettes à côté, en face. Ben, les cigarettes que vous achetez, normalement, il se crée entre celui qui vend les cigarettes et vous qui les achetez, il se crée un lien de responsabilité. Vous n'auriez pas le droit de dire, donnez-moi un paquet de cigarettes. Très bien, la personne vous donne un paquet de cigarettes. Dès que vous avez demandé le paquet de cigarettes, vous êtes engagé de le payer. Hein, normalement. Vous avez donné, oh merci, c'est merveilleux, c'est tu me martais, vous avez m'envoyé, mais je vous l'ai demandé, vous l'avez donné spontanément. Entre nous, c'est des liens d'amitié, quoi. Donc on reçoit. Mais dès que vous demandez quelque chose à quelqu'un qui est officiellement dans un commerce, n'est-ce pas, si vous faites ça avec quelqu'un qui est juste à côté de vous, bon, vous pouvez dire, je te prends ça, très bien. Non, certaines mœurs, ça peut se faire comme ça, tu vois. Alors on les prend, c'est tout ce qui est à toi et à moi, donc je le prends. Alors c'est bien commun. C'est bien commun, oui. Il y a toujours bon dos, le bien commun. Alors, c'est anonyme, le bien commun, vous voyez. Il n'y a personne qui crie, sauf le responsable du coin. Mais autrement, il n'y a personne qui crie. Le bien commun, il a bon dos. Normalement, dès que quelqu'un a l'étiquette, commerce, dès que vous demandez quelque chose, il y a un débitum de justice. Alors, cette expérience que vous faites constamment de la justice, est-ce que c'est à partir de là que je vais commencer mon éthique? Je dis non. Je dis qu'il faut le soulever, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que cette expérience de la justice est beaucoup plus complexe. Elle est beaucoup moins pure que dans le monde entier. Elle dépend de la loi, elle dépend de conventions, elle dépend d'un tas de choses. Donc c'est une expérience plus au niveau politique. Vous voyez ? Et c'est vrai que la politique commence au sens fort par l'expérience de la justice. En famille, on ne fait pas l'expérience de la justice. On fait l'expérience d'un amour d'amitié. Au sens rigoureux, on ne fait pas l'expérience de la justice. Entre petits frères, petites sœurs, tout est commun. On prend tout. C'est bien, tu m'as volé ça. C'est pas un vol, c'est bien. C'est commun. C'est l'expérience du bien commun. Alors on ne peut pas dire la justice serait au niveau de la communauté politique. Au niveau de la communauté politique, il y a une expérience au début tout. Et alors, vous voyez, l'expérience de la justice me conduira à découvrir ce que c'est que la communauté politique. Mais elle ne me conduit pas directement à l'expérience d'une activité morale. De sorte que je maintiens que c'est dans l'expérience de l'amour d'amitié que je découvre l'exigence d'une morale. Si je fais cela, c'est parce que je vous ai déjà dit qu'en philosophie éthique, aujourd'hui, pour les Grecs, c'était très facile. Mais pour aujourd'hui, c'est très difficile et tous ceux qui enseignent la philosophie éthique se posent le problème, quel est le fondement de l'éthique ? Très belle question, ça. Quel est le fondement de l'éthique ? Alors, quel est le fondement de l'éthique ? Posez-vous là aussi la question. Je dirais, personnellement, il n'y a pas de fondement de l'éthique. Que l'éthique, en réalité, va prendre son point de départ et sa source dans une expérience humaine qui est l'expérience de l'amour d'éthique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a d'éthique qu'au niveau de l'amour d'amitié, hein. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire que c'est à partir de cette expérience, de cette relation particulièrement forte entre deux personnes, que je vais comprendre ce que représente l'activité morale. Au sens très fort. Je peux très bien, je vise ça tout de suite, et c'est important de le noter tout de suite, je peux très bien prendre conscience de l'activité morale au niveau communautaire et au niveau communauté politique. Mais à ce moment-là, je lui dirai tout simplement à cette dépendance que j'ai à l'égard d'une communauté politique, d'une communauté humaine, d'une communauté travailleuse, d'une communauté dans laquelle je vis. Et je n'irai pas plus loin. Il faudra revenir ensuite pour me demander est-ce qu'il y a une dépendance plus radicale et plus personnelle. Et là, je reviens à l'amour d'amitié. Alors, je pose le problème avec vous. Quel est le fondement de l'éthique morale ? C'est un des grands problèmes actuels. Tous ceux qui enseignent encore la philosophie morale, ce qui est un peu beaucoup, mais tous ceux qui enseignent encore la philosophie morale se posent la question sur quoi se fonde le point de vue moral. Quel est le fondement du point de vue moral? N'oubliez pas qu'au point de vue philosophique, l'autorité est toujours la dernière des raisons. Donc je ne peux pas me dire, il y a l'autorité religieuse, vous voyez bien, il y a eu la loi dans l'Ancien Testament. Très bien, pour le croyant. Et pour celui qui est philosophe, c'est une morale comme une autre. Quand je dis Socrate a reçu l'inspiration à Delphes, connais-toi toi-même, et toute sa morale est née à partir de là. Très bien, c'est l'opinion de Socrate, c'est pas la mienne, moi j'ai pas reçu cet oracle. À Delphes, je n'ai pas reçu cet oracle, connais-toi toi-même. Donc je suis très libre, de ça. Pour Socrate, c'est différent. Je ne peux pas reposer ma morale sur l'opinion de Socrate, sur l'opinion de la loi. Sur quoi vais-je la fonder ? Alors, des quantités disent que la morale repose sur la nature humaine. Parce que, habituellement, beaucoup de gens de bonnes traditions disent la morale repose sur la nature humaine. Vous voyez comme c'est très difficile de dire ça. Parce que d'abord, la conception que j'ai de la nature humaine, c'est quoi ? Est-ce que c'est une conception philosophique ? Si c'est une conception philosophique de la nature humaine, en elle-même, je ne sais ce qu'elle est qu'en fonction de cette finalité. Mais alors, il y a un peu de pétition de principe. Si c'est la nature humaine finalisée, c'est une nature humaine déjà parfaite. Donc, ce n'est pas la nature humaine. C'est la nature humaine plus les opérations humaines qui me permettent d'atteindre ma fin. Donc c'est la nature humaine parfaitement épanouie. C'est pas la nature humaine en soi. C'est la nature humaine en soi, ça n'existe pas. C'est la nature humaine dans tel ou tel individu. Mais ma nature, la nature humaine dans l'individu. Oui. Au niveau philosophique, je ne peux pas dire que ma morale repose sur la nature humaine. Ça a été dit au point de départ chez les stoïciens, parce qu'ils avaient une vision de la nature humaine qui était dépendante de Dieu. Ils disaient que la nature humaine, c'était tout simplement le reflet de la volonté de Dieu dans tel ou tel individu. Alors à ce moment-là, ils ont dit que la morale reposait sur la nature humaine. Mais c'est une perspective de sagesse. Ça présuppose qu'on ait déjà découvert la sagesse divine créatrice. Alors c'est vrai que dans la sagesse divine créatrice, je peux dire que toute ma morale repose sur le développement de la nature humaine. Le développement de la nature humaine réclame une morale. Et ça, je le dis au nom de la sagesse divine. Donc, au plan philosophique, je ne peux pas le dire. Je pourrais le dire au terme de ma philosophie, mais pas au point de départ. Donc, je ne peux pas dire que la morale se fonde sur la nature humaine. Alors, elle se fonde sur quoi, ma morale ? Ma morale se fonde sur la nature humaine avec ses opérations. Ce sont les opérations humaines que j'ai faites. Pas n'importe quelle opération humaine. Une opération humaine finalisée. C'est-à-dire une opération humaine qui touche sa fin, qui touche son bien. Or, parmi les opérations humaines qui atteignent leur fin, qui atteignent le bien humain, il n'y en a pas tellement. Il y a l'amour d'amitié. L'amour d'amitié ou la contemplation. Et comme la contemplation est très rare, je ne vais pas faire reposer le moral sur la contemplation. Et puis surtout, la contemplation est au-delà du point de vue moral. Donc si le fondement de l'éthique, c'est l'opération humaine, et une opération humaine finalisée, je vois bien que je dois découvrir ce fondement de l'éthique par l'expérience que je peux avoir d'une opération humaine qui atteint sa fin, c'est-à-dire l'amour d'amitié. C'est donc bien l'amour d'amitié qui va me permettre de comprendre ce que représente l'activité humaine morale. On avait beaucoup développé ça l'année dernière, je ne fais que le rappeler, c'est important parce qu'il s'agit, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours l'année dernière, de comprendre que c'est à partir de l'expérience de l'amour d'amitié que nous pouvons découvrir notre responsabilité humaine. Et que nous pouvons découvrir qu'il y a une possibilité d'une réflexion, d'une philosophie éthique. Si je réfléchis sur l'amour d'amitié, je vois tout de suite que l'amour d'amitié est à la fois quelque chose de simple et en même temps d'extrêmement complexe. L'amour d'amitié implique un amour. Un amour spirituel. Je prends l'amour d'amitié au sens fort. Un amour spirituel qui porte sur une personne. Cet amour spirituel qui porte sur une personne, réciproque. Tout amour d'amitié implique une réciprocité. Mais ici, je prends, dans l'analyse même de l'amour d'amitié, je prends l'élément premier de l'amour d'amitié. C'est un amour spirituel. Cet amour spirituel devient une intention de vie dans la mesure où j'accepte cet amour spirituel. Je vous disais cette chose qui est très importante pour nous à bien comprendre, que l'amour, dans ce qu'il a de tout à fait premier, est au-delà de la liberté. L'amour est quelque chose qui s'impose. Même l'amour spirituel, c'est quelque chose qui s'impose. Mais j'en prends conscience et je peux l'accepter ou pas l'accepter. Et c'est là où il y a une liberté. Je peux le reconnaître ou le refuser. Et au moment où je l'accepte, il devient intention de vie, parce que je considère que le bien qui m'attire peut être ma fin. que ce bien est capable de me finaliser. Alors à ce moment-là, cet amour se transforme en intention de vie. Je vais vite, hein, parce que vous reverrez ça du reste en cours, ça va donner, mais c'est simplement pour rappeler ce qu'on avait vu l'année dernière. Hein. Mais l'année dernière, on l'avait vu alors, très au long, on avait insisté beaucoup là-dessus, parce que c'est très intéressant de voir comment l'analyse de l'amour d'amitié me permet de retrouver tous les moments de l'actuel. C'est ça qui m'intéresse ici. Comment l'amour d'amitié me permet, si j'analyse, permet de retrouver tous les moments de l'acte humain. Un amour spirituel, une intention de vie, un choix. Et puis ensuite, je m'engage. C'est ce qu'on appelle l'hyperlite. Je retrouve donc, si j'analyse, analyser l'amour d'amitié, vous verrez que nécessairement est impliqué tous ces éléments dedans. Dans l'amour d'amitié, il y a un amour à l'égard d'une personne. Il y a une intention de vie, cette personne je la considère comme mon bien et comme ce qui finalise ma vie. Je choisis cette personne. Non seulement intention de vie, mais ça devient un choix. Puisque l'amour d'amitié se noue dans un choix mutuel. On se choisit mutuellement et on se choisit librement. Vous voyez, il y a deux moments de liberté. Ici, un premier moment de liberté dans l'intention de vie. Et un second moment de liberté dans le choix. Ce sont deux types de liberté très différents, qu'on confond tout le temps. Justement, au point de vue philosophique, on doit essayer de voir que c'est différent. On avait essayé de voir la différence entre cette liberté de l'intention de vie et cette liberté du choix. Puis je m'engage, je dis mon oui. Très significatif, des fiancés. Jusqu'à la dernière minute, ils peuvent suspendre leur oui. Ils se sont choisis, mais il y a le oui, c'est l'impératif. Hein, ça. C'est le commandement, c'est l'exécution, dans l'ordre de l'exécution. Oui, tu es mon ami. C'est quand même très différent de porter dans son cœur le choix et de le dire. Vous voyez ? Alors là, c'est l'exécution, c'est l'imperium qui implique le point de vue de l'exécution. Et alors, l'exécution permet justement de rejoindre ce qui était porté affectivement en moi, de le rejoindre réellement. C'est toute l'incarnation de l'amour que nous voyons dans l'acte humain. Alors, à travers chacun de ces moments, il y a l'intelligence qui joue un rôle particulier. Le passage de l'amour spirituel à l'intention de vie réclame une intelligence qui est capable de comprendre que ce qui est bien devient la fin. Vers quoi j'ordonne toutes mes facultés, j'ordonne toute ma vitalité. Entre l'intention de vie et le choix, je retrouve de nouveau l'intelligence, un jugement, pour comprendre comment cette intention de vie va exiger des quantités de moyens. Et parmi ces moyens, je choisis le moyen principal qui est l'ami. Il va la faire là. Il est à la fois mon bien, ma fin et mon moyen. C'est extraordinaire. Si j'étudie l'amour d'amitié, il est les trois. Parce que je le choisis. Je le choisis librement. Je le choisis comme celui qui me permettra d'aimer plus, qui me permettra d'aller plus loin. Donc, il y a bien tout cela qui est impliqué dedans. Et une fois que j'ai choisi, alors je suis capable de dire oui. C'est l'exécution. Donc, à l'intérieur de l'amour d'amitié, si je l'analyse philosophiquement, je retrouve tous les moments de l'acte humain. Deuxième constatation. L'acte humain se déroule dans la lutte. Il y a toujours possibilité qu'un amour se corrompt. L'amour spirituel qui demande de devenir une intention de vie peut très bien se corrompre en velléité. La velléité, vous voyez ce que c'est. C'est un amour non efficace. C'est celui qui dit « Seigneur, Seigneur, je vous aime ». Aucune efficacité. C'est la velléité. C'est l'imaginaire qui intervient. Donc l'ennemi, il est au-dedans de nous. Hein. Faut pas l'oublier. Il est au-dedans de nous. L'imaginaire est lié à la passion. Et l'imaginaire lié à la passion peut très bien empêcher un véritable amour d'aller jusqu'au bout et de se corrompre. Et à ce moment-là, l'amour spirituel, à la place de se transformer en une intention de vie, devient une velléité. C'est pour ça que quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est très faux. C'est pas de bonnes intentions, de velléité. Il y a des quantités de gens velléitaires. Les velléitaires, c'est du côté affectif, c'est de la mousse, quoi. C'est merveilleux, c'est quelque chose d'étonnant, mais ça ne tient pas. C'est quelque chose qui ne tient pas. C'est un amour qui n'est pas structuré. C'est un amour purement affectif et purement imaginaire. Et un amour incapable d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Alors ça, c'est un amour velléitaire. Donc, je constate, et ça c'est très important, je constate que dans l'acte humain, cet acte humain dont j'analyse les moments, cet acte humain ne se réalise pas toujours. Combien d'amitiés n'aboutissent pas? Combien d'amitiés se corrompent? Pourquoi? Parce que le passant entre l'amour spirituel et l'intention, c'est pas toujours l'intelligence qui vient mûrir l'amour spirituel, mais l'imaginaire joue un rôle très important. Parce que l'imaginaire est toujours lié aux passions. Alors cet amour spirituel, à la place de rester spirituel, devient passionnel. Et dès qu'il devient passionnel, il n'est plus une intention. Je veux posséder l'autre et non pas l'aimer. C'est bien ça. On veut posséder l'autre et non pas l'aimer. Parce que dans la passion, on veut toujours posséder. La passion n'a aucune possibilité d'un véritable amour oblatif. Un amour où on s'offre. Un amour où on se donne. Il n'y a plus rien du tout d'extatique où on se donne. Mais on veut au contraire accaparer. Et alors, quand l'amour est pris par l'imaginaire et la passion, l'amour spirituel se corrompt. La corruption de ce qu'il y a de meilleur. Parce que cet amour spirituel, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de plus beau. Eh bien, il peut se corrompre par la passion et par l'imaginaire. Ça manque de réalisme. Alors que l'intelligence est là pour donner tout ce réalisme, cet amour spirituel qui nous permet d'atteindre une personne qui nous attire, que nous aimons, et de faire que cet amour devienne une intention de vie. Quand cet amour devient une intention de vie, cet amour est très réaliste. Il mobilise toutes mes forces en vue d'aimer, avec toute la force que ça représente. Tandis qu'au contraire, quand l'imaginaire lié à la passion omnubile l'intelligence, il va corrompre cet amour spirituel et nous serons en face d'une velléité passionnelle ou en face d'une tempête passionnelle. Parce que ça parle. C'est celui qui voit sa proie disparaître. Alors à ce moment-là, il devient méchant. Et c'est vrai. Il devient méchant parce qu'il voit sa proie disparaître. Et c'est tout simplement la passion liée à l'imaginaire. Et la passion liée à l'imaginaire fait que l'irascible remplace le concupiscible. C'est l'aspect de domination. C'est très important de voir ça. Cette corruption possible de ce premier amour. Il y a une corruption possible encore du passage de l'intention au choix de vie. Nouvelle possibilité de corruption. C'est très difficile d'aimer. Hein. C'est ce qu'il y a de plus difficile. On éduque, du moins, on croit éduquer les vertus, mais on n'éduque jamais la volonté. Alors que tout provient de la volonté. Et la volonté, l'éducation de la volonté, ça fait par l'éducation de l'amour qui est en nous. De cet amour spirituel qui doit arriver à faire qu'on aime les personnes, qu'on les aime vraiment pour elles-mêmes. Et que cet amour spirituel se transforme en intention de vie, se transforme en choix. Donc, là encore, un péril, le passage de l'intention de vie au choix. Et ceci peut se corrompre par l'imaginaire. Troisième péril, le passage du choix à l'impérium. Alors là encore, il peut y avoir corruption par l'imaginaire. Vous voyez, trois moments de corruption possible de l'amour. Et ça, c'est très intéressant et très important à étudier ça. Trois moments de corruption de l'amour. On peut être lucide là-dessus. Et on peut comprendre. Alors, pas quand on est pris par la passion. Quand on est pris par la passion, on devient complètement aveugle. On ne voit rien du tout. Alors c'est l'ami qui doit dire à ce moment-là, attention, attention, hein, tu prétends aimer, tu n'aimes pas du tout. C'est tout simplement ta passion qui veut dominer. C'est le vautour qui est en toi et qui devient là. La petite colombe est complètement disparue. Et c'est le vautour qui prend tout et qui veut dominer. Parce que c'est l'irascible qui, par l'imaginaire, a pris domination. Vous avez trois moments de corruption. C'est très important de comprendre ça. Parce que s'il y a trois moments de corruption, ça prouve que nous devons éduquer notre amour. Comment éduquer l'amour? C'est notre auto-éducation. Comment éduquer l'amour? Comment faire que nous soyons des êtres capables d'aimer vraiment? Et pas des velléités. Comment faire cela? C'est ce que nous verrons la fois prochaine, oui. Parce que c'est ça qui est important.